Bonjour, c'est Agnès B. Vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Dans mon souci constant de toujours rappeler à l'auditeur où nous en sommes question calendrier, sachez que c'est aujourd'hui le mercredi des cendres qui traditionnellement fait suite au mardi gras. La coutume catholique veut en effet que le prêtre dépose des cendres sur le front de ses fidèles pour leur rappeler notamment que poussière, ils retourneront à la poussière, comme me le fait souvent d'ailleurs remarquer ma femme de ménage, pourtant de confession musulmane. Pourquoi des cendres, vous demandez-vous peut-être, alors qu'on fume de moins en moins, l'époque est plus au vapotage et qu'il faudra bien remonter, surtout si l'on est au sport d'hiver. C'est une bonne question et peut-être vais-je la poser à notre premier invité, Jérémy El-Kaïm, qui lui est plutôt habitué à tutoyer les sommets, à en croire ses choix judicieux en matière cinématographique. D'autant plus qu'il a, je crois lui-même, cessé de fumer, ce dont je le félicite, et que pour ce qui est de descendre, eh ben nous n'irons hélas pas aujourd'hui à la cave de Pop Pop Pop, puisque nous parlerons de musique avec Olivier Marguerie, ce qui tombe bien puisque Jérémy El-Kaïm est un mélomane convaincu. En un mot, comme en mille, cinéma et musique au programme, et du bon cinéma et de la bonne musique.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Jérémy El-Kaïm.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans le studio. Pourquoi descendre, hein, je le répète, alors que l'époque est plus au vapotage et qu'il faudra bien remonter, surtout si l'on est au sport d'hiver, Jérémy El-Kaïm.
Pourquoi descendre? Moi, j'ai, comme qui dirait, une sorte de phobie d'altitude. J'ai un peu la phobie, oui, de tout ce qui se passe en haut, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'y vais.
C'est toujours vertige.
Entre autres.
Eh bien, vous allez en avoir aujourd'hui dans cette émission. À mes côtés, Charline, le premier des vertiges.
Bonjour. 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 On n'ira pas très très haut, vous inquiétez pas.
Bonjour Charline. Au menu de Pop 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 aussi, lui. Après Mademoiselle B, Agnès B, nous recevons aujourd'hui O, Olivier Marguerie, avant peut-être Dominique A. On ne sait pas, on ne sait plus. Mais avant ça, Jérémy El-Kaïm, ici il existe une question qui peut laisser sans voix. Je vous le dis tout de suite, comme toutes les filles de France Inter d'ailleurs, qui vous dévorent des yeux depuis la régie. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture, Jérémy El-Kaïm? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses El-Kaïmantes, dumassiennes, mensonginaires, marthe querelleuse, voire pyrénéantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Bartabas. Et comme vous avez été palefrenier dans une vie précédente, Jérémy El-Kaïm, ça devrait vous parler. Écoutez.
Pour moi, c'est mon premier disque quand même que j'ai acheté, adolescent, c'est Jimi Hendrix.
Et c'était lequel? Et
quelque chose qui m'a d'ailleurs marqué chez lui, c'est, outre évidemment la musique, c'est un interview que j'avais entendu un jour. Et il disait qu'il flippait parce que le public lui demandait de jouer, je me rappelle plus ce que c'était, certains morceaux, alors que lui était déjà beaucoup plus loin et dans sa tête, il jouait déjà autre chose. Quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pour moi plus tard. C'est-à-dire le côté du rapport avec le public, d'être toujours en avant et de n'être ce qu'on est en ce moment, quoi. De pas travailler sur le passé. Et comme à Zingaro, on n'a pas de répertoire, c'est assez facile.
Bien, ça c'était Bartabas. Et vous, Jérémy El-Kaïm?
Pas mal, l'idée du présent, comme il le disait. Je dirais que dans pop culture, il y a pop, il y a quelque chose, il y a l'idée du populaire, d'une chose qui nous concerne tous. Une chose forte à plusieurs qu'on est capable de ressentir et de penser. Souvent, ça vient du désir de création, donc une œuvre plutôt, en général, la culture, mais la culture qui se partage très fort.
Presque culture élitiste, donc.
Non, disons que c'est même au-delà de la question de l'élitisme, il y a presque une idée de plaisir. Il y a la volonté de se faire plaisir les uns et les autres. Celui qui transmet et celui à qui on transmet. Il vient pour le plaisir autant que celui qui lui a transmis.
Très bien, mais écoutez, nous allons essayer de suivre votre volonté dans l'heure qui vient. Jérémy El-Kaïm, vous avez passé cette première étape avec succès sans tomber dans la cave de Pop 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 grâce à la trappe au-dessus de laquelle vous êtes assis en ce moment et que je peux actionner à tout moment. Alors attention à vous. En attendant, restons dans la pop culture avec le dernier morceau de Duran Jones and the Education, c'est Morning in America.
Thunder down. are the harbor lights on Baltimore that nurses.
Durant Jones and the Education, Morning in America, cet extrait de l'album American Love Call. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité qui a confié au journal Libération avec une faiblesse, avoir une faiblesse pour ce morceau.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis.
Mais qui est donc ce mélomane réponse avec son pop portrait? Alors votre pop portrait, Jérémy, c'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline...
Alors je sais, notre invité a une angoisse, se voir réduit à un seul aspect de sa personnalité. Et pourtant, je vais passer outre cette inquiétude et vous exposer ma théorie.
Allez-y.
Je crois qu'à chaque fois que Jérémy Elkaïm sourit dans un film, un chaton mignon fait son apparition dans la vraie vie. Alors au risque de vous décevoir, Jérémy, hein, ce qui me chagrinerait beaucoup, parce que en plus je suis terrorisée à l'idée qu'à rebours, à chaque fois que vous êtes contrarié, un chaton mignon disparaît. Bref, très compliqué cette histoire. Jérémy, même si ce n'est bien sûr pas votre seule spécificité, vous êtes, à mon sens, celui au ciné qui incarne le mieux cette forme de virilité affirmée. Affirmé, mais non toxique. Bonhomme tout en étant bienveillant, costaud et délicat, et même féminin parfois, révolté mais résilient, raisonnable et zinzin, tout ça en même temps. En témoignent vos rôles dans Presque rien, La Reine des Pommes, Police, La Guerre est déclarée, pour ne citer que, ou encore le Paul que vous incarnez dans On ment toujours à ceux qu'on aime, qui vous amène aujourd'hui. Alors comme moi aussi, je kiffe ma philosophie d'Amel Bent, je vous le dis Jérémy, visez la lune, oh non, ça me fait pas peur, et je vais donc vous demander s'il vous plaît un sourire maintenant, sinon je vais avoir des grosses emmerdes avec la SPA.
Il est même inextinguible depuis que vous avez commencé à vous exprimer.
Bon, ça va alors. Plein de petits chatons.
Mais oui.
Bah oui.
Il n'arrête pas de vous sourire.
Oui, bah je vois.
Oui, je ne fais que ça. Et
bon,
et
bah
je ne suis pas sûr que ça me rend très intelligent. Mais...
Refaites-le moi, moi aussi.
Oh, ah,
petit chaton.
Voilà.
Voilà un chaton mignon apparaît dans votre vie. Comment va-t-on l'appeler?
Antoine ?
Antoine, mon petit Antoine, tu bouges pas, t'es là. Alors Jérémy Elkaïm, prenez ce chaton mignon avec vous et allons voir ce qui vous fait ronronner dans la pop culture. C'est l'heure de votre pop list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, vous avez choisi Portnoy et son complexe, écrit par Philippe Roth, livre de 1969. Charline, est-ce parce que Philippe Roth que Portnoy est un complexe ou y a-t-il strictement aucun rapport?
Je laisse un petit silence pour vous assumer ce lancement, toi. Portnoy, c'est Alexander, chargé auprès du maire de New York des questions d'égalité sociale, de lutte contre les discriminations raciales et son complexe. Bah, c'est tout ce qu'il confie à son psychanalyste, hein, le docteur Spielvogel. Soit son rapport à sa mère, sa vie amoureuse, ses obsessions, sexuelles ou non, mais en bonne partie quand même.
Et la constipation de son père.
Aussi.
Alors, attendez, Jérémy, avant de nous en parler, nous expliquer pourquoi vous avez une telle passion pour ce livre, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Avec joie, Antoine. Ah, et puis qu'est-ce que ça peut changer après tout? Je peux mentir à propos de mon nom, je peux mentir à propos de mon école, mais comment vais-je mentir à propos de cette chierie de tarin? Vous avez l'air d'un garçon très gentil, monsieur Portnoir, mais pourquoi est-ce que vous vous couvrez comme ça le milieu de la figure? Parce que soudain, il a pris son essor, le milieu de ma figure. Parce qu'il est bien loin, le bouton de mes années d'enfance, cette charmante petite chose que les gens admiraient volontiers dans mon landau. Regardez donc, voilà que le milieu de mon visage a commencé à s'étirer vers Dieu. Porte noire. Et passons mon cul. Gamin, tu as les lettres J-U-I-F étalées en travers de la figure. Regardez-moi donc ce blair, mon Dieu. Ce n'est pas un nez, c'est une trompe. Allez, barre-toi, petit youpin. Tire-toi de la glace et laisse les filles tranquilles.
Pourquoi il vous plaît tellement ce livre, Jérémy? Portnoy et son complexe, ou Portnoy, je ne sais pas comment on dit.
Portnoy, moi je dis, mais...
Oui, Portnoy.
Ça, c'est plus fleuri. Vous savez, il s'est passé une chose assez étonnante, parce que j'ai dû réfléchir effectivement à répondre à cette question. Quel était selon moi mon livre culte, en quelque sorte? Je me suis dit que j'allais pas vous dire Critique de la raison pure de Kant, on aurait fait une émission un peu chiante. Naturellement, il y a un truc assez pop qui m'est venu, quelque chose qui avait de la légèreté, qui contenait de la légèreté, et c'était issu de mon adolescence. Philippe Roth, c'est beaucoup d'esprit, beaucoup d'intelligence pour dire que être au monde n'est pas une chose simple, mais qu'on est bien obligé de faire avec. Mmh. Et cette distance-là, cette intelligence mise au service de la littérature, ça produit de la drôlerie et ça console un peu. Quand j'ai été adolescent et que je l'ai découvert, c'était comme des petits, chaque phrase était des portes, des petits secrets sur un monde qui me semblait être un monde d'esprit et d'intelligence qui m'aidait à vivre. Et ben quand j'ai su que j'allais venir ici et que j'ai noté ça, je me suis dit, mais dis donc, ça fait bien longtemps que j'ai lu Portnoy et son complexe. J'étais adolescent à l'époque où je l'ai lu. Ouais. J'avais pas d'enfant, j'étais pas père, j'avais pas tout à fait mon métier, j'étais pas épais d'un vécu. Et si je le relisais avant l'émission? Et figurez-vous que je l'ai relu. Parce que je l'ai noté pour vous répondre.
Grâce à nous.
Voilà. Et ça m'a fait cet effet étrange qui est comme un truc un peu spatio-temporel qui est de aujourd'hui, de ma position, relire des choses qui, à l'époque, m'avaient attrapé. Elle m'avait attrapé à un endroit de crudité, car le livre, il est étonnant parce que c'est un livre de vérité. Il exprime tout ce qui lui passe par la tête. Effectivement, il est chez son psy. Et donc, il s'autorise une langue qui est très crue.
Bien sûr.
Ça, c'était une des choses qui m'avait séduite. Mais en revanche, j'avais pas été séduit comme je l'ai été aujourd'hui par son rapport avec ses parents, qui est assez bouleversant, assez surprenant. Et j'adore le portrait de ses parents dans le roman.
Vous savez qu'on lit jamais deux fois le même livre.
Voilà. C'est ce que j'ai réalisé. Bah oui. Donc je vous remercie.
Je vous en prie, c'est un plaisir. N'êtes pas au bout de vos surprises, on va continuer cette pop list, si vous le voulez bien. Et voilà, s'il le veut bien aussi, merci. Avec votre film culte, et ce film, c'est Elle, Ten, en VO, réalisé par Blake Edwards en 79. Alors Charline, je vous l'apprends, je vénère Blake Edwards.
Sans blague.
Et Dudley Moore est absolument irrésistible dans Ten. Et pour une fois, bah tiens, je vous demande votre avis.
Pour une fois, j'en ai pas. C'est étonnant. Grosse crise de la quarantaine pour George Weber. Dudley Moore, compositeur hollywoodien de chansons de variété. Et pourtant, sa compagne, la chanteuse Samantha Taylor, est absolument délicieuse. Et c'est normal parce que c'est Julie Andrews. Mais c'est sur une femme qui est celle d'un autre, en l'occurrence Jenny Boderek, qu'il fantasme et compte jeter son dévolu.
George Weber is a successful songwriter.
Elevator music. I'm very big in elevators.
And everything is going his way. But George is about to discover that even a man who has everything doesn't have everything.
She was the most beautiful girl I had ever seen.
Julie Andrews.
George!
Introducing Bo Derek.
Did you ever do it to a Vals Bolero?
In Blake Edwards, 10.
Alors Jérémy, j'ai été surpris parce que j'ai quand même fait mon petite enquête. Je sais qu'il y a une scène de cinéma qui vous a traumatisé, c'est dans Voyage au bout de l'enfer, la scène de la roulette russe.
Oui, enfin.
Mais vous citez Ten.
C'est un petit peu la même démarche qu'avec Portnoy et son complexe. J'ai cherché dans ma mémoire un film qui, d'abord, pas forcément identifié. L'idée de culte, c'est pas forcément l'idée du plus grand nombre. Mmh. Donc je me suis dit, bon, une chose qui est mon petit endroit, un endroit de recueillement presque. Et encore une fois, c'est un film qui m'aide à vivre parce que c'est un film qui me fait pleurer de rire. Mmh. Dudley Moore est absolument irrésistible en dépressif quarantenaire qui se jette son dévolu sur une jeune femme. Il y a deux, trois scènes d'anthologie qui m'ont véritablement, concrètement aidé à vivre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je me suis retrouvé à tourner un film en Chine et que je l'ai revu à cette occasion-là. Et j'étais perdu dans la Pampa par 5000 mètres d'altitude, donc vous savez que j'ai le vertige. Mmh. Et donc j'ai mis le film et ce film m'a...
Consolé.
Oui, consolé. Et surtout m'a dit, allez, c'est pas grave, ça va bien se passer. Et en particulier, une scène où il est obligé de pour retrouver la jeune femme dont il s'était pris, il doit aller prendre les informations auprès de son père qui est dentiste. Mmh. Donc, mais il ne va chez le dentiste uniquement pour prendre l'information, pour savoir où se trouve cette jeune femme et la retrouver. Il se trouve que le dentiste regarde quand même sa bouche. Lui ne sait pas qu'il est venu chercher une information. Et il a des caries partout et donc il le charcute totalement. Et donc notre personnage se retrouve avec la bouche tordue à boire et avec le liquide qui dégouline pendant un long moment. Non, mais c'est du Black Edwards absolument pur, c'est truculent, ça se raconte pas, il faut le regarder.
Bien, j'ai un livre, j'ai un film, Jérémy El-Khalim. Pour la série, vous avez choisi Curb Your Enthusiasm. En français, Larry et son nombril. En québécois, Cache ta joie. Charline, je sais que c'est votre surnom d'ailleurs, mais pourriez-vous nous donner deux, trois infos sur cette série?
Parce que l'enthousiasme, c'est pour les faibles, Antoine. Larry David joue une version de lui à peine déformée. Riche producteur hollywoodien marié à une femme charmante. Il faut rappeler qu'il a été lui-même producteur et scénariste de Seinfeld. Il mène une vie relativement tranquille dans sa jolie villa à Los Angeles, mais lors d'une soirée au ciné, sa vie va se transformer en cauchemar et s'enchaînent alors les facéties et autres situations rocambolesques, comme disent les millénials de l'humour.
Mm-hmm. Bande-annonce de la saison 10.
Hey, it's J.B. Smoove, back on the set of Curb Your Enthusiasm for season 10. Oh, oh, we up in here, baby!
J.B., you're actually not working today.
So what's... What?
You're not working today.
The fuck I'm not!
You're not in the scene, get out.
I'm in the shit now. I'm already here.
No, you're not here. Get
I'm
out.
In the motherfucker. Look, camera there.
What is he doing?
I'm in the shit already here, bro.
Okay, get the fuck out.
Stop fucking up our set.
Curb Your Enthusiasm, season 10, up in this bitch!
Jérémy El-Khalim, vous préférez le titre en VO ou bien la version québécoise Cache ta joie?
Elle a l'air pas mal, Cache ta joie, c'est drôle. Je la connaissais pas, Curb Your Enthusiasm. Mais c'est toute l'œuvre de Larry David hein, que ouais. Je vénère. Mais bon, effectivement, Curb Your Enthusiasm, c'est absolument immense avec de petites choses.
Avec et ça,
réussir à faire de l'immense avec des toutes petites choses.
Des toutes petites choses,
c'est
du
spectaculaire. Il y a un truc assez drôle d'ailleurs dans cette saison, dans la dernière, celle dont on a entendu la bande-annonce. C'est envoyer des messages par inadvertance, mais fait exprès. Envoyer des messages par inadvertance faite exprès, c'est par exemple envoyer à sa femme un message destiné à son meilleur ami qui nous propose d'aller au Super Bowl. Mm-hmm. Non, désolé, je vais rester avec ma femme. Je ne pourrais pas venir au Super Bowl avec toi et accepter tes places. Pour qu'évidemment, elle se sente flattée.
Bien, alors il me manque quoi? Il me manque une chanson Jérémy El-Khalim, mais cette chanson, c'est celle-ci.
On meurt pas de vieillesse, on meurt pas de tristesse, on meurt pas de fatigue. Ni de neurasthénie, on meurt pas de maladie, on meurt pas de jalousie, on meurt pas de regret, on meurt pas de folie, on meurt pas du cancer, on meurt pas d'overdose, on meurt pas de misère ni d'aucune autre chose, on meurt tous d'amour.
On meurt tous d'amour de Valérie Lagrange, donc plutôt Valérie Lagrange qu'Amel Bent.
Je n'ai qu'une philosophie.
Je vous fais un paquet, allez hop.
Qu'est-ce qu'elle a cette chanson?
Bah, elle dit la vérité. On meurt tous d'amour.
On meurt toujours d'amour.
Ouais, c'est la seule solution pour véritablement mourir. Mm-hmm. Je crois que tout est dit. Et non, par ailleurs, je trouve la chanson, bien qu'elle soit un peu appuyée, d'une poésie sûre.
Valérie ouais. Lagrange.
Oui, j'adore. J'adore l'époque à laquelle elle a été faite, l'enregistrement, l'énergie qu'elle y met. Et puis, encore une fois, ce qu'elle raconte.
Bien. Alors, je résume, mon cher Jérémy Philippe Roth, Blake Edwards, Curb Your Enthusiasm et On meurt tous d'amour de Valérie Lagrange. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
George Weber is a successful songwriter.
On meurt pas de vieillesse, on meurt pas de tristesse.
The fuck I'm not!
You're not in the scene, get out!
On meurt pas de fatigue, ni de neurasthenie.
And everything is going his way.
Curb Your Enthusiasm, season 10, up in this bitch!
Parce qu'il est bien loin, le bouton de mes années d'enfance, cette charmante petite chose que les gens admiraient volontiers dans mon landau.
Mm-hmm. Vous validez Jérémy Alcaïm ?
Bon, je sais pas très bien, mais ça dit un cerveau un peu malade, il faut aller faire un petit peu de ménage là-dedans.
On va y aller. Et le petit chat, il valide ?
Antoine, le petit chat.
Non, je l'ai appelé Mickey, moi.
Bon, on a dit Antoine.
Non, Mickey, c'est mieux. Non, je préfère Mickey. Le chat qui s'appelle Mickey, ça me plaît. Alors, on ment toujours à ceux qu'on aime. Ce n'est pas ma philosophie, hein, comme dirait Amel Bent, mais le film dont nous allons parler avec vous, Jérémy Alcaïm, juste après un morceau du nouveau Specials. C'est de la balle, croyez-moi, et Terry Hall sera dans Pop 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 début avril. Blam Blam Fever, c'est le titre. Specials dans Pop 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 sur France Inter avec Blam Blam Fever. Cet extrait de encore leur tout nouvel album et Terry Hall sera dans notre studio le 8 avril. Bien, pour l'instant nous sommes toujours en compagnie de Jérémy Alcaïm, venu nous parler de On ment toujours à ceux qu'on aime, le premier film de Sandrine Dumas. Jérémy d'ailleurs, c'est vrai ou c'est un mensonge ça?
Je ne suis pas vraiment là. C'est... Mais de toute façon, est-ce qu'on est vraiment là, complètement, tout le temps?
Oh!
Pas sûr.
Oh! Attendez, je vous ramène tout de suite dans le... Nous sommes là. Alors, c'est vrai. Et maintenant, il va être question de mensonge avec, donc, ce film, On ment toujours à ceux qu'on aime, qui est sorti ce matin même. Est-ce que vous mentez toujours à ceux que vous aimez?
Alors, pour moi, il y a deux choses à bien distinguer. Il y a, est-ce que mentir à ceux qu'on aime est une manière de les protéger ou de les aimer? Ou est-ce qu'il est possible de ne pas mentir à ceux qu'on aime? Je pense qu'il n'est pas possible de ne pas mentir à ceux qu'on aime. En revanche, je ne pense pas que ce soit une manière d'aimer les gens. qu'on aime. Ce que je veux dire, c'est que il peut être parfois sous-entendu par certains que protéger de mauvaises nouvelles. Je me souviens d'avoir vu des films, des œuvres, des livres dont le point de départ est l'idée que ne pas dire une chose qui pourrait faire du mal, qui pourrait c'est aimer, c'est protéger. Moi, je crois que la vérité, c'est souvent beaucoup plus d'amour, même quand elle est difficile à entendre.
Alors, Jérémy, je ne sais pas si vous nous aimez ou pas, Charline et moi, mais est-ce que vous nous avez menti depuis le début de cette émission, par exemple ?
C'est étonnant, mais je crois que je ne vous ai dit que la vérité. Mais c'est étonnant, parce que vraiment, j'ai un goût pour le mensonge assez prononcé. Je dois dire que je le valorise très fort, mais avec les années, il n'est plus tout à fait mon compagnon.
Bien.
J'aime bien la phrase « la vérité n'a pas peur des questions ». Et comme je savais que vous alliez m'en poser, j'avais décidé de n'offrir que la vérité.
Et des questions, on en a plein à vous poser. On ment toujours à ce qu'on aime, c'est l'histoire de Jewel Stone, une jeune femme qui a sabordé sa carrière de chanteuse, qui vit désormais d'un job de serveuse. Marie, sa grand-mère et unique famille qui vit aux États-Unis, va débarquer du jour au lendemain. Seul problème, entre-temps, elle s'est inventée une vie amoureuse, sociale et professionnelle. Et vous, Jérémy, vous êtes Paul, son mari, et le père de sa fille Ruby, enfin le père. Enfin ça, c'est ce qu'elle raconte à sa grand-mère. Bande annonce.
Tu te souviens de ma grand-mère Marie ? Elle arrive à Paris demain et...
Elle croit quoi ? Qu'on est ensemble tous les deux ? Tu te fous de moi ?
Oh, bonjour mon fils.
Yes,
she's beautiful. She looks really like you, she has the same eyes.
T'avais besoin que je sois là pour l'aéroport, mais j'ai besoin de faire ce voyage avec ma mère, ok ?
Ça marchera jamais !
En route les amoureux, on y va ?
J'en ai ras-le-bol de tes mensonges à la con.
À cause de mes mensonges à la con, tu reparles enfin à ta mère.
Even to those we love, we don't tell all.
On ment toujours à ceux qu'on aime. C'est la bande-annonce du premier et très beau film de Sandrine Dumas. Dans ce film, Jérémy, vous êtes donc Paul, l'ex de Jewel, un personnage qui ronronne dans sa vie, comme ça arrive à beaucoup, jusqu'à ce qu'elle vienne le secouer. Il résiste, mais je vous laisse continuer.
Bah, il se laisse embarquer. En réalité, lui le dit comme si au fond il se laissait embarquer dans ses névroses à elle. Mais ce qui le pousse à y aller, c'est sûrement bien d'autres choses. Effectivement, j'aime assez l'idée qu'on oppose le ronronnement d'une vie qui est bien installée à l'aventure qu'il attend s'il ouvre sa porte. Il la laisse fermer tant qu'il peut, et puis tout d'un coup, au fond. Je pense effectivement que mon personnage, entre autres, c'est une aventure humaine qui le conduit à accepter cette virée.
Mais ce ronronnement, cette lassitude, cette forme de renoncement chez votre personnage, c'est aussi une forme de mensonge.
Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est
mise en abîme, non ?
Non, mais le mensonge se niche un peu partout. Évidemment, il y a le mensonge qu'on se fait à soi-même, le mensonge social. Moi, j'aime bien au Japon, il y a le soi intime et le soi social. Mmh. On arrive très bien à les faire cohabiter. Ils sont nécessaires, sinon on ne peut pas vivre dans cette société qui a ses codes et qui est très très compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, des mensonges à soi, on ne cesse d'en faire. Mais c'est toujours compliqué de se dire que c'est... Parce qu'il y a quelque chose de très péjoratif derrière l'idée de mensonge. Alors que si tout d'un coup, ce qu'on
sous-entend... Péché, c'est un péché.
Oui, puis si ce qu'on sous-entend, c'est au fond une bienveillance qui conduit à ne pas tout dire ou à s'arrondir soi-même les angles, c'est une façon de se consoler. Est-ce que pour autant c'est un mensonge ? S'arranger avec la vérité, c'est tout est question de point de vue, c'est un peu compliqué. Il se ment un petit peu.
Pour Sandrine Dumas, la réalisatrice, votre personnage est dans l'équilibre entre la féminité et la masculinité. Vous complétez Jewel, qui elle aussi possède une certaine part de masculinité. Jérémy Elkaïm, est-ce que l'homme est une femme comme les autres ?
Je vois d'où vient cette question. On vous a apprécié à peu près du haut en bas dans ce film. Non, je dirais que il est heureusement plein de féminité et c'est absolument terrible quand il en a pas conscience ou quand il se refuse à accepter cette part de lui. L'inquiétude, souvent, je pense, fait que certains hommes surjouent leur masculinité et sont conduits parfois à dire des idioties, à faire des idioties. J'aime assez l'idée, effectivement, que dans ce film, pour créer de la complémentarité, on est un peu brouillé les pistes, mais gentiment, mais au fond, c'est devenu complètement ringard de n'être qu'une seule chose à un seul endroit. Tout à l'heure, vous parliez de mon inquiétude d'être réduit à un seul endroit de moi-même. J'ai l'impression de ne pas être le seul.
Mais dans la vie, vous seriez plutôt Jewel ou Paul ?
Ça dépend des circonstances.
Ne mentez pas.
Ça dépend des circonstances. Non, je pense que formellement, j'ai tendance à dégager plutôt de la féminité et un goût pour les, pour la poésie et les choses qui sont par les sexistes qui sont attribuées aux femmes. En réalité, je suis assez vieux jeu, plutôt autoritaire dans mon intimité. J'aime que ça marche droit et que mes enfants écoutent, écoutent mes désirs.
Abel
Bench. Voilà. Abel Bench. Non, mais c'est paradoxe. En tout cas, cette complémentarité, c'est la seule qui permet d'avancer.
Jérémy El-Khaïm, vous dites aimer les films qui vous déstabilisent. En quoi celui-ci est-il déstabilisant pour vous? Enfin, par le vertige,
vous voulez dire comme spectateur ou comme acteur?
Les deux.
Les deux. Comme spectateur, je pense que c'est la base. C'est-à-dire qu'un film qui nous laisserait intact totalement, à mes yeux, n'a pas d'intérêt. Je pense même qu'il y a, en gros, 10% de films qu'on déteste, qui nous sont hostiles, 10% de films qui nous enthousiasment, et puis il y a un gros ventre mou de films sur lesquels
on
trouve
un peu,
oui, dont on se fout un peu, qui serait 80% des films sur lesquels on trouve des consensus.
Monter,
c'est terrible, mais c'est vrai.
Monter encore un peu.
Vous voulez dire que je suis trop trop optimiste. Non, pour ce qui me concerne en tant qu'acteur, c'est effectivement un petit peu comme en tant que spectateur, c'est que ça fait du bien là où ça fait mal. Ça ne fait du bien que si ça déplace un peu, que si ça grince, que s'il y a friction. Je dirais que je ne suis pas tout à fait un acteur, mais que je suis complètement quelqu'un qui a envie d'incarner des rôles en s'engageant, en engageant sa personne. Je ne suis pas complètement acteur parce que j'en ai pas le désir chevillé au corps, mais en revanche, quand on m'en propose l'aventure et que je l'accepte, souvent, une des raisons pour lesquelles je l'accepte, c'est qu'il y a la possibilité de cette friction. La possibilité, effectivement, de déplacer des choses, de visiter des endroits de moi que je ne connaissais pas. Jouer, c'est faire un pont entre soi et les rôles. C'est un métier que vous connaissez très bien, donc vous savez combien il faut s'utiliser et combien on ne peut pas faire l'économie de soi quand on le fait, qu'on écrive, qu'on réalise, qu'on joue, ou qu'on soit à l'endroit d'un film.
Alors moi, c'est un métier que je ne connais pas, du coup, je le confesse, mais le road trip, c'est un genre dans lequel tout comédien rêve de tourner. C'est un peu l'image qu'on en a, souvent.
Le fait est qu'on vit un peu ce que vivent les personnages. Et qu'on est bien obligé, alors pas tout à fait, hein, je vous rassure, on ne meurt pas, mais on vit malgré tout un peu quand même ce que vivent les personnages. Et donc là, en l'occurrence, il nous a bien fallu voyager et voir du pays et monter dans les Pyrénées. Merci Sandrine Dumas. non, je rigole. Mais oui, c'est ce qui peut y avoir de merveilleux, c'est la part colonie de vacances qui serait augmentée, ouais. qui existe, qui est inhérente au tournage et au métier d'acteur et de metteur en scène, mais qui là, tout d'un coup, s'incarne carrément dans la fiction elle-même.
Oui, parce que là, vous êtes donc c'est un trajet en voiture entouré par trois femmes dont on sait tous ici qu'elles savent pas lire les cartes. Ah non, ça c'est une de vos relances, Antoine, je me suis trompée. Monia Chokri, vue chez Dolan.
Trois scénaristes. Hein.
Fiona Flanagan, vue dans des tonnes de films, mais aussi dans Lost, donc Panthéo perso. Et votre mère est jouée par Marthe Keller. Comment est-ce que vous êtes sentie au milieu d'elle, enfermée dans cette voiture?
Moi, je dois dire que la compagnie des femmes ne me dérange pas. Donc j'étais absolument ravi de les accompagner, de tenter d'être avec elles à la hauteur, le plus chevaleresque possible. Parce que quoi qu'on en dise, c'est toujours merveilleux d'avoir un jeune homme chevaleresque. Donc j'étais attentif et puis je conduisais tout le temps. Non, c'est des personnalités très différentes, les trois. Monia Chokri est absolument merveilleuse, comme l'est son personnage. Elle a quelque chose de pétillant, de sémillant, une énergie. Elle est vivace, le personnage l'est. Et d'ailleurs, elle donne le tempo au film. Elle donne sa vivacité au film. C'est du rythme, le cinéma, le jeu. Et donc, il y a comme ça une vivacité qui vient vraiment de sa personnalité, qu'elle a dans la vie. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir et de complicité avec elle, à rire de mille choses, ce qu'elle fait tout le temps. Elle a beaucoup d'humour, elle est extrêmement drôle. Sinon, Marthe Keller, merveille, c'était ma mère. Elle est d'une causticité absolue. Il n'y a pas un bon mot qui lui échappe, elle est terrible. Son regard ne laisse rien échapper.
Jérémy, je me posais la question, vous êtes scénariste également, La guerre est déclarée, vous l'avez co-scénarisé. Je voudrais savoir le regard que porte le scénariste que vous êtes sur ce scénario très habilement tricoté, très subtilement échafaudé.
C'est toujours spécial parce que quand je lis un scénario qui m'est envoyé pour que j'incarne un personnage, je m'efforce justement de ne pas... C'est comme si j'enlevais au fond les lunettes de script doctor et que j'essaie de me concentrer à l'endroit où on me demande d'incarner, de voir si à la fois j'en suis capable, si ça me touche, si ça m'intéresse, si ça me plaît. Évidemment que je lis le scénario quand même, mais c'est quand même ça qui compte le plus. Donc j'aurais du mal à complètement parler de la manière dont c'est tricoté, comme vous dites, pour cette raison, mais ce que je peux dire, c'est que c'est des listes de courses, les scénarios. C'est tout simplement des listes de courses. Mmh. C'est on vous dit, ah ben, voilà ce qu'il faut aller chercher, puis on va les mettre ensemble. C'est comme une recette, comme un plat qu'on est en train de cuisiner. Et effectivement, elles sont plus ou moins impressionnantes. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas tant d'ingrédients que ça, mais que c'est comme une promesse pleine d'humilité, le peu d'ingrédients dans une liste de courses pour un plat. Si les produits sont bons, eh ben, le repas est bon, et c'est le sentiment que ça me donnait.
Et quand je dis qu'il est habilement tricoté, c'est évidemment pas parce qu'il a été écrit par des femmes. N'allez
mais
pas
me
ce mauvais procès, Charline.
Super.
Il y a une chanson qui revient toujours dans le film, qui est Ruby. Ruby, qui est une chanson magnifique. Je ne sais pas si vous avez entendu la version française de cette chanson, mais je vous la ferai écouter en fin d'émission, je vous le promets.
Avec plaisir.
Vous restez avec nous, on n'a pas fini de discuter. Pour l'instant, est-ce que vous savez faire ça? Alors ça,
pas mal, non?
Ça, c'est un beau pop. Hein, ouais.
Parfait.
Et c'est pour lancer les pop news.
Ah, ça, j'adore. Le comeback.
Absolument. Après Escape at Dannemora, l'excellente et primée Patricia Arquette poursuit en série et en drama, cette fois pour la plateforme Hulu. Elle jouera dans une série anthologique nommée The Act, dont chaque saison s'inspire d'une histoire vraie de meurtre. Elle y incarne Didi Blanchard, la mère très, très toxique de Gypsy, une gamine qui essaie de lui échapper.
This is the state's case against Gypsy Rose Blanchard.
She's got paraplegia, epilepsy, heart murmurs, and she's allergic to sugar. Everything I do for her.
My mom is my best friend. All she wants to do is keep me safe.
Gypsy!
Have you been able to confirm the girl's medical history?
Which part?
Any of it.
The Act avec Patricia Arquette, Joey King et Chloé Sevigny, ce sera le 20 mars sur Hulu.
Je suis abonné de la première heure,
ah
je vais pas rater ça moi, en tant qu'Hulu. Un premier teaser, quasi sans dialogue, nous finirons ensemble la suite des Petits Mouchoirs, signé Guillaume Canet. De retour au Cap Ferret, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Benoît Magimel, Laurent Lafitte et évidemment François Cluzet, moyen content apparemment de les retrouver.
Qu'est-ce que vous foutez là?
Un très beau casting auquel vient s'ajouter le fan numéro 1 des Beatles, José Garcia. Nous finirons ensemble, ça sortira le 1er mai au cinéma.
La reprise du jour, c'est à l'immense, immense Eddie Vedder, chanteur de Pearl Jam qu'on la doit. Sur scène en Arizona, il a chanté Maybe It's Time, tiré de la bande originale du film de Bradley Cooper, Star is Born. Maybe it's time to be always Maybe it's time to be always Eddie Vedder qui sera le parrain du Record Store Day ce 13 avril, discardé en France, parrainé par Arnaud Robotini.
France Inter. Pop pop. Antoine Decaux.
Oui, c'est moi.
François Cluzet.
Non,
c'est chelou.
Arnaud Robotini.
Quel rapport.
On t'accueillir. Oh, alias.
C'est pas sûr d'Antoine.
Olivier Marguerite. Écoutons-le, Olivier Marguerite, avec ce titre, une phrase que je vous dis souvent, Charline, tu sais, je ne sais plus.
C'est vrai.
Tu sais, je ne sais plus.
Tu sais, je ne sais plus, même plus ton nom.
Je ne sais plus. C'est extrait du nouvel album À Terre d'Olivier Marguerie qui vient d'entrer dans le studio de Pop 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 de France Inter. Bonjour Olivier Marguerie.
Salut. Bonjour.
On dit Olivier Marguerie ou O?
Oh, maintenant on dit Olivier Marguerie, déjà c'est plus simple pour se parler. Mmh. J'ai commencé en fait en me cachant un peu derrière cette lettre, le O, c'était donc mon initiale, et puis j'avais envie un peu au début de faire des trucs dans mon coin sans forcément avoir du tout des velléités commerciales, donc ça m'allait très bien de ne pas être très identifié.
Bon, en tous les cas, ça donc ne se bien. Prononce pas comme j'ai fait hier en fin d'émission. Demain dans Pop Pop Pop, Jérémy Elkaïm et lui. Oh, c'est Olivier Marguerite.
Non, j'avoue, ouais, non. Normalement, on dit Marguerite. Mais ma vie.
C'est bientôt le printemps en même temps.
C'est bientôt le printemps. Et puis vraiment, dans ma vie, très très régulièrement, on peut m'appeler Marguerite. Du coup, maintenant, j'accepte, quoi. Faut que j'accepte
cette personne est un chat. Hein. Il retombe toujours sur ses pieds. Il peut faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi. Ça marche quand même. Mais alors, du coup, pourquoi, comme vous avez aimé à le répéter, la 15e lettre de l'alphabet, ça vous fait passer après M? C'est un peu dur.
Ouais, je sais. Bah, sur le moment, j'avais pas trop pensé. J'avais aussi une L dans le paysage
absolument.
Français. Bah ouais, mais sur le moment, je voyais plus, en fait, la forme ronde du O que ça, sa place dans l'alphabet, en fait.
Pas le roman un peu olé-olé.
Alors, le roman olé-olé,
les histoires d'eau.
C'est aussi une partie de mon histoire, parce qu'après, j'ai fait un spectacle autour de ce roman, mais après avoir décidé de m'incarner derrière cette lettre.
Et sans oublier Dominique A.
Enfin, oui, bien sûr, on est plusieurs.
Vous aviez Agnès B, non?
Agnès B, hier,
des chiffres et des lettres, cette émission.
Alors, O, c'est aussi O comme O, H-A-U-T, ce qui vous fait un point commun avec Jérémy Elkaïm, car vous avez le vertige tous les deux.
Oui, j'ai entendu tout à l'heure.
C'est pour ça que l'album s'appelle À Terre?
Mais oui, tout à fait. En fait, j'avais besoin un peu d'un cadre à un moment pour commencer à travailler. J'ai cherché plusieurs directions et c'est vrai que le vertige fait partie de ma personnalité depuis longtemps. J'ai peur de tomber dès que je me retrouve en hauteur. Ça me happe, quoi. Et comme j'étais dans ce moment un peu du deuxième album en train d'essayer de chercher, je me retrouvais face à cette fameuse page blanche un peu, sans savoir trop ce qu'allait se passer. J'avais vraiment l'impression d'être en train de me casser la gueule d'une certaine façon. Et donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas travailler cette forme-là, cette idée-là. Et effectivement, il y avait cette idée aussi de jouer avec le son du haut, quoi, que ça puisse être l'album du haut H-A-U-T.
Et le précédent, c'était Un torrent.
La boue.
C'est-à-dire que vous êtes très très terrien en fait.
Je suis assez terrien.
Il y a une métaphore affilée.
Un torrent, la boue était beaucoup plus aquatique et donc c'était un peu O-E-A-U en fait. J'ai l'impression de tenir une ligne là, donc
je
tire quoi.
Tenez une ligne et ça mord.
Et ça mord, ouais. Bah oui, je suis là.
Question à la Laura Adler. Ce vertige, c'est au sens propre ou au figuré? Une sorte de peur du vide avec ce nouvel album? Se sentir happé, cette étrange sensation d'attraction et de répulsion vers le gouffre. C'est fini, vous pouvez répondre.
Laure, vous avez un peu tout dit. Ouais, je dois avouer que je me sens happé parfois dans ce gouffre-là et il faut lutter pour ne pas y aller. Et effectivement, c'est en faisant des chansons et c'est en parlant qu'on se libère de cette force-là. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à travers ce disque.
Olivier Marguerite, Télérama voit en vous, je cite, un Beatle évanescent. Certes. Mais lequel ?
Oh, moi j'irais plutôt vers Paul McCartney parce que c'est
bah, voyons.
Par goût.
Eh bah voyons.
Bah oui, par goût, mais après je les aime tous hein, vraiment, oui. Chacun a un peu sa petite personnalité, c'est un oui, peu comme enfin, les biomans oui, quoi. Oui. Ils ont tous leur petite force. J'aimais beaucoup l'insolence de McCartney de Lennon bien sûr, mais c'est vrai que McCartney par sa carrière, par tous les endroits qu'il a visités, par même c'était un peu lui qui réunissait tout le monde, je pense dans les Beatles, c'était un peu lui qui organisait le truc. Moteur, oui. Donc ouais. Voilà, moi j'aime bien sa personnalité.
Et l'appellation vous plaît, Beatles.
Oui, super, ouais. Tout me va bien. Oui, oui, bien sûr.
Alors ce deuxième album, À Terre, vous le vouliez, je vous cite, un tonique et très pop, avec des mélodies qui viennent de votre amour des années 60, avec les Beatles, donc les Beach Boys, les Kings. Alors à défaut d'avoir mon mixeur de pop culture, est-ce que ça veut dire que vous avez voulu mettre toutes ces influences dans un album?
Oui, alors je voulais pas faire un album passéiste hein, dans le son. Je voulais que ça sonne un peu comme dans mon époque. Mais c'est vrai que les groupes qui m'ont un peu initié à la musique, ou en tout cas au savoir-faire musical, c'était plutôt ces groupes-là des années 60. Et c'était à une époque où on aimait trousser des belles mélodies, où voilà, on cherchait des belles harmonies d'abord avec son piano, et puis après on essayait d'avoir la belle mélodie qui va avec des belles harmonies vocales. Et c'était clairement ce que je voulais faire avec ce disque. Le premier disque avait des formes un peu plus alambiqué parfois de morceaux, et là je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus classique, le couplet, le refrain, des refrains qui sont assez fédérateurs, voilà. Donc c'était un peu le but de ce disque.
Jérémy, vous avez ce genre de goût en musique?
Oui, alors ils sont très éclectiques, vous l'aurez remarqué, mais donc ils vont donc se promener de ce côté-là aussi, effectivement. Ouais.
Olivier, vos nombreux collaborateurs, que ce soit au sein d'Allo Maude, Sid Matters, Mina Tindall et ailleurs, vantent votre altruisme et votre capacité d'effacement. La position de frontman, est-ce qu'elle vous plaît aujourd'hui?
Elle me plaît parce que c'est un endroit où je peux du coup expérimenter des choses pour moi, et que c'est sûrement parfois plus simple que de le faire avec un groupe, quoi, avec des collaborateurs. Mais j'aime aussi beaucoup en fait être au service des autres. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique, effectivement, les groupes que vous avez cités. Et c'est beaucoup plus facile, effectivement, on se laisse un peu porter, on est source de propositions sans être dans la lumière. Voilà, c'est tout à ses avantages. Là, en ce moment, effectivement, j'aime bien ce petit côté devant, en train de parler avec vous, chanter mes chansons. C'est un moment que j'aime bien. Il n'est pas dit que je ferai ça tout le temps. Je vais régulièrement rejouer avec des gens et faire l'accompagnateur.
J'ai compté le mot qui revient le plus souvent quand on parle de vous dans le doc préparé avec amour par notre attachée de production Claire-Sophie Collet. Le mot c'est pop, 27 fois en 13 pages.
Bah, c'est
pop,
vrai,
ça vous convient?
Ça vous fait un point commun?
Bah, pop, ça me convient très bien, effectivement. Bah, je m'inscris dans cette tradition de cette musique des années 60 dont on parlait juste avant, où un peu le mot est apparu pour définir ce nouveau courant musical tourné autour de la chanson, mais aussi l'idée de la commercialisation, enfin de toucher un public, et donc pas forcément pop pour populaire, mais en tout cas ouvert aux autres, pas de la musique trop savante. Et je me sens dans ce cadre-là, ça me va très bien.
Et en parlant de pop, comme on est dans pop pop pop, bah les pop 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 du début de votre morceau Oiseau de nuit.
Vous avez raison.
On va dire que c'est un hommage.
Ouais, ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est un hommage à l'émission, bien sûr, depuis le début.
Oui, je vous disais, Charlie.
Ouais, un chat, je vous ai dit un chat. Ah oui, toujours un chat. Sur les pieds.
C'est une émission qui marque son temps. Il y a un autre lien entre Jérémy El-Khaïm et vous, après Le Vertige, c'est le cinéma, car Olivier, vous avez aussi composé des BO de films, comme celle de La Question humaine, film de Nicolas Klotz, avec Mathieu Amalric, ou Diamant noir, le premier film d'Arthur Harari. Comment travaillez-vous pour composer une BO?
Chaque projet est assez particulier. En fait, c'est vraiment une rencontre. Enfin, moi, de mon expérience, c'est une rencontre avec le réalisateur. Chaque réalisateur a une façon de fonctionner. Déjà, il sait ou il sait pas parler de musique. Donc, ça va vraiment changer la façon dont on va travailler avec lui. Et puis, ça dépend aussi du moment dans lequel on arrive dans l'histoire. C'est-à-dire que si on arrive, comme souvent, en fait, malheureusement, en fin de production, c'est toujours un peu plus compliqué. On n'a pas le temps d'installer un vrai dialogue. Il y a vraiment même souvent des morceaux qui ont déjà été placés, qu'on doit remplacer, nous, en tant que compositeurs. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des films qui avaient des films plutôt d'auteur, où on prend son temps, on se rencontre un peu à l'avance. Et dans ces films-là, c'est super de pouvoir avoir un vrai dialogue et de pouvoir commencer à travailler longtemps avant et d'avoir des échanges assez nourris avec les réalisateurs.
Et vous, Jérémy, vous chantiez sur la BO du film La guerre est déclarée.
J'aime ta peau blanche et ton grain. J'aurais pu vous épargner ça, je vous demande pardon.
Non, pas du tout, pas du tout. Pourriez peut-être faire un featuring tous les deux?
Carrément, ouais.
Non?
Bon, pourquoi pas. Alors moi, je suis vraiment les rares fois où je l'ai fait, c'était effectivement sous la direction de Benjamin Biolay, qui nous a filé un coup de main pour sur le film de Valérie Donzelli. Et alors lui, il a un truc assez décomplexant. Il dit, c'est pas grave, on s'en fout. Vas-y, fais le truc. Tu fais une prise. Et il dit, bah très bien, c'est super. Donc je sais pas dans quelle mesure je...
Bon, on en reparlera. Olivier, Jérémy El-Khaïm, il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission, et j'y vais de ce pas. Bah, Henri, qu'est-ce que tu fabriques là? Mais t'es tout nu, Henri, ça va pas? Et comment ça, c'est parce qu'on reçoit Jérémy Elkaïm? Je vois pas le rapport. Quoi? Tu aimes beaucoup Jérémy Elkaïm? Enfin, c'est pas une raison, on reçoit pas un invité tout nu. Allez, rhabille-toi. Allez, dépêche-toi, allez. Allez. Ah, voilà. Quoi? Quoi? Jérémy, ma petite culotte. Tout ça pour ça, Henri? Non, mais tu sais que tu me désoles, toi. C'est vraiment pas possible.
Elle se maquille, teint ses cheveux et puis se fait les mains. Ruby revient de la grande ville, je reste dans mon coin. Les ombres sur le mur me disent que le soleil rougit. A ruby, tu reviens au pays. Elle dut partir faire ses études en Nouvelle-Angleterre. Elle était jeune et c'était la volonté de son père. Mais j'ai toujours rêvé qu'un jour je serai son mari. Au pays. Je sais c'est dur d'aimer un homme qu'on ne reconnaît plus. Elle a changé, elle a appris, moi je n'ai jamais lu. Je m'aperçois sur la photo, mais un autre sourire. Au pays. Puis elle m'appelle son petit frère, la nuit prend ses couleurs. Je les connais, elles ont déjà maintes fois pris mon cœur. J'aimerais bien que cette nuit me prenne aussi la vie.
Ruby, tu reviens au pays, c'est Eddie Mitchell sur France Inter. C'est un morceau de 74, extrait de l'album Rocking in Nashville. Pour terminer ce pop-pop-pop, et Ruby, c'est le morceau, je le rappelle, qui dans sa VO sert de leitmotiv à On ment toujours à ceux qu'on aime. Le film dont nous parlait aujourd'hui, Jérémy Elkaïm. Merci Jérémy d'être passé dans notre émission. Je répète le titre, On ment toujours à ceux qu'on aime. Le premier et très beau film de Sandrine Dumas, qui est en salle depuis ce matin. Et c'est un film chaudement recommandé par pop-pop-pop, tout comme votre album, Olivier et Marguerite, à terre, votre deuxième album labellisé Vietnam, qui est disponible. Et j'en profite pour annoncer que vous serez en concert le 28 mars à Paris, le 29 au Havre, le 2 mai à Rouen et le 3 à Lille. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Demain dans Pop Pop Pop, eux. Enfin, lui, Yanis Philippakis, le leader de Falls et le groupe nantais Elephants. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos comment vaincre son vertige sur YouTube, abonnez-vous à...
Notre podcast, et suivez-nous sur les internets comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.